Everywhere you go, everyone you know. On the road, in the club, everyone you know does.
It's impossible to stop when you start to feel it. Can't you believe it, that the whole world needs it.
Bonsoir et bienvenue dans ce 14e épisode du Cyclocast. Je suis Grincheux.
Je suis Prokylus.
Et c'est... Mais non, c'est pas Mogor.
Bah.
Mais Warthog, qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu fous là, Warthog?
Bah, je sais pas, moi j'ai vu la lumière, alors je suis rentré.
Eh ben, bienvenue. Eh bien, comme on vous l'annonçait dans notre petit interlude il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a des remaniements dans le Cyclocast, puisque avec Mogor nous avons eu une petite fille. Elle est donc un peu moins disposée à animer le podcast avec nous. Et très gentiment, Warthog a accepté de venir être le quatrième comparse pour pouvoir également remplacer Mogor pendant son absence. Mais elle reviendra et on fera des podcasts à quatre à ce moment-là.
Voilà.
Ça a l'air dégueulasse ce que vous me racontez.
Oh ouais, tu vas voir, c'est très cochon. Non mais voilà, donc vous inquiétez pas, on sera quatre. C'est-à-dire que ça va pas être, on va pas alterner, mais disons que à quatre, c'est plus facile si l'un de nous est indisponible, que on puisse toujours être là pour vous. Voilà.
Voilà, donc nouvelle saison, on va dire, on peut dire, même si on n'a pas jusqu'à présent vraiment défini de saison, mais c'est le premier épisode réellement enregistré depuis la rentrée.
Mais tu diras qu'il y a un personnage principal qui arrive dans l'intrigue, donc c'est une nouvelle saison en soi.
Voilà. Vous avez aussi parlé de changer quelques petites choses dans le déroulé du podcast. Donc cette semaine, il va d'abord y avoir les news. Je sais pas, on n'a pas de rétropédalage, je crois.
Non, on n'a pas de rétropédalage. Le truc qui s'est un petit peu amorcé depuis quelques temps, je pense que les auditeurs l'ont remarqué, c'est que on n'est plus que 2 sur 3 à faire un dossier. Donc là, ce soir, on est 3. On va également sauter un dossier. Le mien, ce sera pour la prochaine fois. Voilà.
Et on terminera avec nos coups de cœur.
Voilà.
Donc on va essayer de vous trouver des petits coups de cœur, des petites news qui nous ont plus marqué que d'autres.
Tu veux que je tease pour que les gens restent jusqu'à la fin? Oh si, je vais teaser.
Non.
Je vais juste dire Mamoru Hosoda. Et là, les gens vont se demander de quoi je parle. Ça sera à la fin.
Voilà. Eh bien, on va commencer avec les news.
C'est parti.
Alors, je vais commencer avec une première news qui parle de voiture.
Bouh! Oh bah génial, bravo! Ça commence bien, tiens.
Oui, 2 voitures et 2 fixies.
Oh, encore pire!
Non. En fait,
scandale!
En fait, non, c'est pas forcément 2 fixies en particulier.
Remboursé, dans invitation.
C'est une news sur laquelle je suis tombé il y a quelques temps. Au sujet des Google Cars, donc pas les voitures qui prennent les photos, mais les voitures qui conduisent toutes seules. Et elles ont un problème avec les fixies. Alors, ça pourrait arriver avec d'autres types de vélos que les fixies. Elles font pas de la ségrégation anti-hipster, non. Mais c'est juste un constat qui a été fait durant le mois d'août, où à une intersection, un fixiste et une Google Car se sont croisés. Et qu'est-ce qui s'est passé comme problème? Ben, le fixiste attendait tranquillement en track stand que la voiture soit passée. Le problème, c'est que la voiture, ses caméras, eh ben, en voyant la position du cycliste, debout sur les pédales, en appui sur le guidon, eh ben, l'ordinateur s'est dit, le mec, il s'apprête à avancer. Et donc, la voiture s'est arrêtée pour ne pas le renverser. Le cycliste, lui, reste debout sur ses pédales. Quand au bout de quelques secondes, sans avancer, la voiture constate que le cycliste n'avance pas, elle s'engage. Mais là, il fait un tout petit mouvement. La voiture voit que le cycliste bouge, hop, elle s'arrête pour pas le renverser. Et le jeu a duré pendant plusieurs minutes comme ça.
En fait, les fixies, c'est des gros trolls, quoi.
Et voilà, la voiture n'arrivait pas à s'engager. Et le fixiste... lui, attendait que la voiture soit passée pour pouvoir traverser. Et donc, bon, il y avait deux ingénieurs de Google qui étaient dans la voiture et qui étaient a priori pliés de rire. et qui ont analysé la situation et qu'est-ce qui a créé cette situation. Mais voilà, la situation, au moment cocasse, qui a duré plus de deux minutes d'après l'article que j'ai lu, sans que la voiture n'arrive à traverser le carrefour. Et je crois que ça s'est terminé avec le fixiste qui a mis pied à terre et la voiture qui s'est engagée.
Ça me fait beaucoup penser, là, cette anecdote, elle me fait penser un petit peu à la news de Bruno Carrette. C'était la grande époque du JTN, le journal télé des nuls. Mec, sa news, c'était panne d'escalator en Belgique. Une cinquantaine de personnes bloquées pendant 4 heures. C'est un peu l'idée, quoi, parce que là, ça pouvait durer longtemps, quoi.
Ah, la bonne nouvelle, c'est que le système est bien foutu, quoi. La voiture, voilà, s'arrête, oui. Voilà. Moi, si j'étais les ingés, je ferais un truc qui détecte que le vélo n'a pas de frein, que c'est un fixiste et qu'il faut lui rouler dessus, quoi, tu vois. Je pourrais faire.
T'es un monstre.
Donc voilà, bon. Pour les Google Car.
Eh ben, une bonne nouvelle, mettons des ordinateurs et supprimons les conducteurs, visiblement.
Oui, j'ai un peu peur, je connais trop les développeurs.
C'est vrai, vous êtes bien placé pour parler, puisque je tiens à le dire aux auditeurs, il faut savoir que deux personnes sur trois dans la pièce ce soir sont des informaticiens.
N'essaye même pas de me traiter de développeur, même pas.
Non, vous êtes. C'est... Bon, bref, je sais pas, mais. Admin 6, c'est ça ?
Voilà.
D'accord, pardon. Autant pour moi. Il y a des castes chez vous, c'est vrai.
Allez, news suivante.
Une petite brève de mon côté. L'Eurostar veut faire mettre les vélos dans des boîtes. Alors, c'est une news qui vient de chez Vélo Maxou. Je tiens à citer mes sources, puisque c'est un site. De news sur internet. Donc oui, dans l'Eurostar, si vous voulez embarquer votre vélo, il faudra qu'il soit démonté, au moins la roue avant, et que ça soit dans une boîte. Si c'est un pliant, vous pouvez le plier, il sera considéré comme un bagage à main. En somme, comme dans les TGV.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Quelle est la différence par rapport à un TGV ? Faut le mettre au format bagage, quoi.
C'est ça, c'est un peu l'idée. Disons qu'en fait, ce qui m'a surtout fait tiquer, c'est cette phrase-là. Pourquoi ils nous demandent ça à tout prix, sachant que bon, l'Eurostar c'est quand même pas donné. Les places, ben on peut les payer. C'est que c'est une mesure, je cite, qui devrait nous permettre de transporter plus de vélos et plus de bagages et de servir les besoins de tous nos clients. Visiblement, l'Eurostar, la SNCF n'ont pas compris que les besoins des clients, c'est de pouvoir charger un vélo sans avoir à faire 2 heures de mécanique.
Alors que s'ils étaient malins, ils nous laisseraient rouler dans le tunnel et en 30 bornes, on fait la traversée en moins d'une heure.
Hein. Oh bah oui, carrément.
C'est qui, il y a un an, quel coureur cycliste, c'est pas Froome qui avait fait justement la traversée du tunnel
Dans le tunnel de service.
Dans le tunnel de service, ouais.
C'est possible.
C'est pas Tom Cruise dans Mission Impossible 2, ça ?
Non, ça c'est non.
Ah non, c'est un hélicoptère.
C'était un hélicoptère, il y avait pas de caténaire sur le. Mais bon.
Bref, bast. Puis il y avait pas de colombe non plus.
Ouais, enfin bon, c'est pour moi cette mesure sur ces annonces de pouvoir transporter les vélos dans l'Eurostar, c'est vraiment de la poudre aux yeux parce que c'est ce qu'on peut déjà faire en tant que bagage.
Voilà.
Bah c'est un peu comme dans les TGV en fait, il y a pas d'infrastructure en plus, on est obligé de démonter le vélo et en gros, on se démerde pour le caler dans le wagon, l'espace bagage.
Tu sais très bien que le vélo n'est qu'un loisir. Donc tu prends ta voiture avec ton vélo dans le coffre. Et tu fais du vélo une fois, deux fois dans l'année, le dimanche quand il fait beau, au printemps et il fait pas trop chaud.
Pour l'acheter le pan camping aussi. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Enfin bon, voilà, moi c'était surtout cette phrase que j'avais retenue, quoi, que grosso modo c'était dans l'intérêt des cyclistes. Bon, c'est un petit peu léger comme réflexion, quoi.
Je suis désolé, je vais vous parler encore d'une news locale lyonnaise.
Ouais!
Mais il fallait quand même en parler. Nos amis du collectif Valve. Toujours prêt à passer à l'action, l'ont fait une fois de plus.
C'est qui ?
Valve, donc c'est venir à Lyon à vélo, non ?
C'est ça, hein.
Ah, mais sinon, je vais me faire trucider pas.
Non, c'est ça, venir à Lyon à vélo. Oh, je te laisse te démerder avec Fabien.
Je bosse plus avec lui, donc déjà.
Voilà, c'est ça.
Donc nos amis de Valve ont une fois de plus sont passés à l'action la nuit du 17 au 18 septembre. Et lassé d'attendre les aménagements cyclables promis pour aborder l'un des principaux points noirs de l'agglomération lyonnaise, donc le pont de la Mulatière, ils se sont armés de peinture et de pochoirs pour tracer une piste cyclable sauvage. Bien entendu, la piste cyclable a été inaugurée.
Attention, c'est pas sur le pont de la Mulatière.
Non, c'est sur l'accès au pont.
C'est, alors, très exactement, si tu veux, je me permets de t'interrompre juste pour te préciser. Oui, parce que les auditeurs l'auront compris, le Valve, c'est un collectif qui est rattaché à l'association dont je fais partie. Donc, en l'occurrence, le pont de la Mulatière donne directement sur une voie qui est très très passante au niveau de la voiture. Et donc qui n'est pas très très praticable d'un point de vue du vélo. Et il y a une alternative qui est très très simple, qui s'appelle le chemin du Prat, qui passe dans une petite zone résidentielle. Il y a très très peu de circulation. C'est très praticable à vélo, ça ne gêne personne. Et il faut juste l'équiper, faire des bandes, faire du marquage.
D'accord.
Et en fait, c'est en projet depuis longtemps, mais c'est un projet qui stagne, qui traîne en longueur. Donc du coup. Effectivement, le collectif Valve a voulu taquiner un petit peu la mairie, a voulu les faire se bouger un petit peu en faisant une action un peu festive, un peu rigolote. Et du coup, oui, je te laisse terminer ta news.
Oui, j'avais terminé cette news. Donc ils ont peint cette piste sauvage qui leur a été à demi-mot promise, si j'ai bien compris.
C'est un peu ça, oui. C'est toujours oui, on va vous le faire, mais vous savez, il faut qu'on débloque les crédits, et puis il faut qu'on voit avec les ingénieurs, et puis
voilà.
On a les aménagements, mais parfois ça prend des années, quoi.
Donc la piste a été inaugurée le matin même, et si tu m'as bien expliqué, le Grand Lyon, avec la pression de la commune de Saint-Genis.
Je vais même te dire mieux, c'est qu'en fait, ils n'ont pas peint la nuit, ils ont peint le matin très tôt. Et il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés avec les flics qui sont venus les chercher.
Oui, ça je me doute que les flics
ont... Presque des éco-terroristes, quoi, finalement.
Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. En fait, les gars du voisinage ont cru que c'était des taggers. Donc en fait, ils ont appelé les keufs. Les gars, ils sont en gilet, ils ont les casques de chantier pour faire très... Genre mec de l'équipement. Et t'as les keufs qui ont débarqué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Ben voilà, donc... Et oui, donc voilà. Du coup, le Grand Lyon a porté plainte. La plainte a été retirée sous une condition express. C'est Gilles Vesco qui a assujetti juste une condition. Il a dit bon, écoutez, ça reste un aménagement illégal, effacez-le juste, mais on retire la plainte. C'était une manière maladroite mais pas méchante d'essayer de se faire bouger un petit peu la mairie, quoi.
Oui. Et ça me fait penser à une double news parce que
yo, vas-y.
J'ai vu ça, c'était quand, la semaine dernière, que les travaux du pont de la Mulatière, donc d'aménagement d'une piste cyclable et d'une vraie officielle sur le pont de la Mulatière, donc sur le côté nord du pont, les travaux ont enfin commencé. Alors ça fait beaucoup de bazar, ça gêne les piétons, la circulation et tout, mais c'est un bien. Parce que enfin, les vélos vont pouvoir traverser de façon sécurisée, sans se rentrer avec les piétons.
Jusqu'à présent, en fait, il y a deux solutions sur le pont de la Mulatière. C'est soit de prendre une voie qui s'apparente à une autoroute, même si dans les faits, la voie de droite n'en est pas une.
Les trois voies ne sont plus de l'autoroute.
En fait, celle du 2 du centre, c'est une voie rapide.
Non. Oui, c'est de la voie rapide.
Cherche pas. Même moi, j'ai essayé de démêler et même le Grand Lyon n'y est pas parce que ça reste un axe national, donc c'est compliqué.
On est bien d'accord. C'est l'autoroute A7.
Voilà.
C'est une putain de piste cyclable sur l'autoroute A7.
Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, donc soit on roule là-dessus, soit on roule sur le trottoir.
Ça fait très bien.
Donc de deux
en
choses
cargo, ça soit très bien.
Ouais, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Je l'ai même fait avec le Yuba de Mogor. Avec une remorque. Avec le Giant dedans.
Moi, je l'ai
et
fait
un Brompton plié sur le porte-bagages, véridique.
Je l'ai fait avec le Bullitt plusieurs fois.
Voilà. Donc, ça y est, ça commence enfin. Parce que là, on n'avait que deux choix. C'était soit prendre l'autoroute avec le vélo, donc se mettre en danger, soit rouler sur le trottoir, c'est-à-dire mettre en danger les piétons. Donc, bon, c'était vidu. Et là, ils sont en train d'aménager quelque chose. Bon, ça va être du temporaire parce qu'il faut faire l'encorbellement piéton, mais ça vient.
Non, mais surtout, aménager ce trottoir, une piste cyclable sur le trottoir à cet endroit-là, à un coût qui est quand même minime par rapport à la passerelle en encorbellement.
On est bien d'accord. Mais la passerelle est nécessaire pour que les piétons puissent marcher.
Oui, et puis c'est un aménagement qui, pareil, a été prévu depuis des années. On en entend parler depuis longtemps.
Alors, on en entend parler depuis très longtemps. Ça fait un peu moins d'un an que ça a été...
Ça a été promis à l'oral il y a un an et demi, deux ans. Ça a été acté véritablement dans les faits il y a un an. Voilà.
Bon.
Allez, vérifier.
On va écourter les news lyonnaises et passer au reste.
Ouais, parce que je pense que sinon les autres, podcasteurs.
Si on lâche tous les auditeurs dès le premier quart d'heure, c'est pas bon.
Voilà, exactement.
Allez, continuons.
Alors, c'est encore Proc avec une petite news concernant une étude qui a été faite, enfin un sondage, une étude opinionway. 42% des conducteurs se disent stressés. Ça a été fait ville par ville et la ville qui arrive en tête, c'est Strasbourg. Donc la prévention routière s'est emparée un petit peu de ce sondage. Et en l'occurrence, c'est les conducteurs qui sont stressés, malgré des transports en commun développés et une place importante du vélo. 10% pour Strasbourg. Donc la prévention routière a avancé trois hypothèses. Que ça viendrait en tête à cause de la conduite dangereuse ou inadaptée des autres automobilistes. C'est bien connu, hein. Le con, c'est l'autre, c'est pas nous. Les embouteillages, et puis la peur d'être en retard. La conclusion de cette étude, c'est que
je vois pas la différence entre le deuxième et le troisième point. C'est des corollaires.
Oui, c'est des corollaires, on est bien d'accord. Les embouteillages, la peur d'être en retard, oui.
Moi, je pense qu'il manque une quatrième option, c'est la culpabilité de ne pas faire du vélo, de ne pas prendre les transports en commun.
Ça doit être ça, exactement. Ouais, on est bien d'accord. Hein.
Ouais.
Ouais. Donc tout ça, face à ce genre de constat, on dit qu'une chose, hein, c'est qu'il faut faire du vélo. Les solutions qui ont été préconisées, non, il n'y a pas le vélo dans la liste. Il y a le GPS et l'assistance à la conduite. En bref, des solutions ultra techniques pour régler d'autres problèmes ultra techniques. Alors que la solution, elle est parfois beaucoup plus simple. Hein. Comme on dit d'habitude, dans les années 60, les Américains ont dépensé 10 millions pour créer un stylo bille qui marche dans toutes les positions et en apesanteur. Les Russes utilisaient des crayons. Bon, c'est faux, parce que le crayon, ça s'utilise pas dans les navettes spatiales.
Les Russes n'avaient pas les moyens de se payer des crayons.
Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc une news pour dire que les Strasbourgeois, ils en ont gros de pas pouvoir rouler en voiture.
On en a gros, sire.
Voilà.
Alors moi j'ai une petite news qui plaira à Mogor et Prokilus.
Oui.
Puisque Surly. La marque de vélo prend position contre les publicités sexistes et racoleuses. En effet, cet été, il y a eu beaucoup de bruit autour du salon Interbike, où certaines marques comme Chrome ont axé leur marketing autour de filles fortement dénudées.
Quoi, ils ont mis des pin-up qui se traînaient langoureusement autour des cadres, comme au salon de l'auto ?
C'est ça, ils ont repris le marketing des bagnoleux, en fait.
Je crois qu'elles étaient carrément topless,
avec des
sacs, des goodies.
Par rapport à ma réaction, je préfère prévenir, c'est du second degré, on est bien d'accord. Hein,
ils n'ont pas mis des bonhommes dans les mêmes tenues juste à côté ?
Voilà.
Ah bah, c'est... Oui. Donc voilà, il y a eu tout un grand débat sur le marketing sexiste.
Je fais un break juste pour dire que si vous entendez Grincheux ou Warthog beugler et derrière entendre un gros, c'est qu'en fait ce soir on enregistre chez moi et qu'il y a mes deux chats qui sont en manque de câlins et qui sont en train de littéralement tapiner auprès des potes pour avoir des gratouilles comme si je leur faisais pas assez. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Pardon, je t'ai coupé, voilà. Grincheux.
Donc j'en étais donc à dire que. Il y a eu pas mal de battages sur ces publicités, ce marketing ultra racoleur, ultra sexiste.
La dernière en date, c'était Colnago, il me semble.
Colnago, ouais, justement, j'allais en parler. Surly a fait un grand billet de blog au sujet de ça. C'était mi-septembre, au sujet de la polémique qu'il y a eu à Interbike, disant qu'il ne cautionnait pas du tout ces façons de faire. Je vous mettrai le billet, il est très intéressant.
Minnesota for the win.
Voilà. Et je voulais justement rebondir sur le fait que Colnago a aussi fait des pubs ultra sexistes, même plus récemment, et a publié un mea culpa où il s'excusait de ses publicités et qu'il soutenait tous les cyclistes et toutes les cyclistes. C'est genre il y a 3 jours, oui.
Oui, en fait, le problème, c'est que les marques de vélo, elles réutilisent exactement le même marketing que pour vendre des voitures, quoi.
Et que seulement, ça marche pas.
Sauf que ça marche pas. Enfin, ça marche
parce
moins.
Que la question de l'égalité des sexes dans le milieu du vélo, je crois qu'elle est quand même beaucoup plus plus d'actualité.
Et puis surtout, le sexisme dans la publicité de voitures, ça s'est quand même vachement atténué depuis 20 ans.
Oui, ça a diminué, mais ça reste encore assez présent. Enfin, oui. Tu vois le salon de l'auto, c'est clair.
C'est clair, c'est un salon qui sent la testostérone.
Voilà, c'est quelque chose qu'on voit moins dans le vélo, quoi. Donc, bah, effectivement, bonne, mais... j'avoue, je suis très très heureux d'entendre ça. Parce que, bien évidemment, comme maintenant beaucoup de poditeurs le savent, je roule sur du Surly quasi quotidiennement. Bien que maintenant, avec mon nouveau cargo, ça fait une semaine que je ne roule qu'en cargo. Tchou tchou tchou. Voilà. Donc,
dites camion.
Ouais, ouais. On disait pas de sexisme, tout ça, voilà.
Je vais avoir un camion, un garçon, hein. Il y a pas.
Bah oui, tiens. Tiens, vas-y, regarde, camion, vas-y, camion. Ah oui. Voilà.
Bon, ok.
Heureusement que vous avez pas les images.
Bon, eh ben, y a plus quoi qu'il y a des news.
Non, j'en ai plus, moi, c'est bon.
Bon, eh ben,
non, moi j'ai rien foutu, comme je suis invité. Je vous
laisse non, il va falloir que tu te mettes à travailler, toi, un peu, hein. Ça va pas durer, ça, hein.
Après les vacances, papa.
Alors, je voulais vous parler de Becca Wright. Becca Wright, ce nom vous dit peut-être rien, mais Mogor vous en a parlé. C'est une dessinatrice qui réalise le webcomics Bikey Face. Elle vous en a parlé dans un des tout premiers
podcasts. Très 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 bon, très bonne BD.
Elle
oui.
est de Portland, je crois, c'est ça?
Je crois, oui.
Boston, je sais
non,
plus.
Non, elle est de LA.
Elle est de LA?
Ouais. Enfin, en tout cas, elle n'a pas toujours été de LA, mais justement, elle a été invitée aux conférences TEDx. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx. Donc, c'est des talks où des personnes vont parler d'un sujet pendant un quart d'heure, je crois, et qui sont très très didactiques, très généralement très intéressants.
Ouais, j'avais vu un mec qui avait fait un saxophone avec une carotte. C'est pas okay, des blagues.
Alors, bon, pour en revenir à Becca Wright, elle a fait un TEDx au sujet de ses déplacements urbains et de son expérience en arrivant à Los Angeles. Donc, où elle raconte justement le fait que ça choquait les gens qu'elle se déplace à vélo. Donc c'est très très intéressant. C'est en anglais, mais je vous incite à le regarder. C'est comme tout.
Les conférences TEDx, on les trouve souvent doublées.
Oui, voilà. En plus, elles sont souvent doublées, donc.
Pour les trouver sous-titrés français.
Allez regarder. Donc je peux pas résumer parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans sa BD, mais vraiment l'a expliqué avec des mots.
Mm-hmm.
Et moi je suis pas fan de sa façon de dessiner, mais les idées qu'elle met derrière ses dessins sont toujours intéressantes. Et
sont même vertueuses, je trouve.
Oui. Et son speech est très 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 intéressant aussi. Allez la regarder.
Si vous entendez un truc derrière, c'est normal. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour le thé.
En fait, voilà. C'est pas vrai. C'est Prokilus qui fait du home trainer.
Ouais, et puis j'ai acheté un cadran en carbone aussi.
Alors, je continue avec mes news.
Vas-y, vas-y.
Donc, vous en avez sûrement entendu parler, mais Grenoble a décidé de passer son centre-ville en zone 30 à partir du 1er janvier 2016.
Merci, Eric Piolle.
C'est une très bonne chose, mais ça m'étonne même pas, en fait.
Alors, c'est la première grande agglomération française à prendre cette décision, et c'est une très bonne nouvelle, parce que, pour moi, on discutait des vitesses tout à l'heure, 30 à l'heure en centre-ville, de toute façon, les voitures ne l'atteignent que très rarement, et ça permet de fluidifier, d'apaiser la circulation, donc c'est tout bon.
Les voitures ne font jamais plus de 30 km/h de moyenne en ville. Jamais, jamais, jamais. Même quand il n'y a personne. Voilà.
Non, et puis, Grenoble, c'est une ville typique européenne. Il y a des petites rues, à part les quelques grands boulevards urbains qui la quadrillent.
À part le Louche dans les années 70.
Voilà, c'est ça.
Avec sa Mercedes 500.
Un dimanche matin d'août, quoi.
D'août à 5h du matin. Mais bon, il s'est aussi pris la liberté de griller quelques feux rouges, notamment des trucs très aveugles. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc, puis en plus, Grenoble est une ville qui est maintenant très très cyclée. Enfin.
Alors, par contre, en aparté, sachez qu'en Belgique, la ville de Tournai a mis cela en application depuis cette rentrée aussi.
À droite. Tourne à droite.
Ah, mais c'est une vanne en fait, d'accord, j'avais pas.
Bon, je vais chercher l'eau pour le thé, les gars.
Je vais ressortir mon bruit de corbeau.
La rigueur, t'aurais dit tourner à droite une fois.
Ah oui.
Et news suivante, hein. Alors, on va maintenant aller à Londres, où un bâtiment a été rénové afin d'en faire le premier bâtiment cyclable. Alors, non, l'idée n'est pas de faire du vélo à travers tout le bâtiment, mais. On a une entrée de parking cycliste qui amène directement au sous-sol, et donc équipé d'une rampe avec des revêtements antidérapants, avec le parking à vélo, des stationnements sécurisés, des vestiaires, salle de sport, et tout pour se changer, enfin, et arriver sereinement au boulot à vélo. Donc je vais vous mettre le lien où on voit la vidéo de présentation de l'immeuble. C'est génial, on arrive, on rentre dans son bureau et enfin on garde le vélo tranquillement au parking, dans un vrai parking à vélo, et
c'est bien couvert
pensé. Donc voilà, vivement d'autres initiatives de ce genre. Et je vais terminer ces news, à moins que vous ayez une news de dernière minute qui soit sortie entre temps.
Non.
Le site bicycling.com a recensé les 5 bike hotels les plus cool du monde. Alors, il se trouve en Colombie-Britannique, au Japon, en Belgique, à Portland et en Caroline du Sud.
C'est con, mais quand t'as dit bike hotel tout de suite, j'ai eu une autre vision qui m'est venue, celle qui me venait de Nicky Larson, qui était un dessin animé que j'avais beaucoup quand j'étais petit, et je dois avouer que dès que tu me parles du Japon, la vision est encore plus présente. On parlera un jour.
Ouais,
si vous cherchez ce qu'est un love hotel au Japon, vous risquez de refaire votre culture, vous verrez.
Les enfants, ne cliquez pas.
Voilà, c'est des hôtels qui sont ultra bike friendly, avec tout le confort pour les cyclistes, des parkings à vélo, ou alors des rangements de vélo pour pouvoir monter son vélo dans sa chambre et le fixer, le ranger dans sa chambre. Des parkings à vélo avec tout le une genre de salle de bain à vélo pour pouvoir nettoyer son vélo en arrivant de rando, enfin le
comme à la maison, quoi,
comme ouais. À la maison, ouais,
gare aux traces de pneus dans la baignoire.
voilà
c'est dédicace à une copine qui nous avait raconté ça.
Bon, et ben sur ces news, je vais laisser la parole à Warthog pour nous faire un petit dossier.
Bicycle. Alors Warthog, tu vas nous parler de quoi de beau ?
Je vais vous parler de la journée sans voiture à Paris.
Ouais !
Ouais, mais c'est loin Paris !
C'est loin Paris, parce que nous on est lyonnais, mais en même temps c'est pas loin Paris, c'est à 2 heures d'ici en train, donc il faut en profiter. Donc le dimanche 27 septembre 2015 a eu lieu la journée sans voiture à Paris. Alors pour la mairie de Paris, la journée ça commence à 11h et ça finit à 18h. Et la ville de Paris, c'est les 4 premiers arrondissements, le Champ de Mars, Montmartre, et les Bois de Vincennes, et les Bois de Boulogne. Voilà, bon, c'est un peu une critique, mais c'est vrai que du coup, quand ça a été annoncé, on s'imaginait tous avoir toute la capitale fermée aux voitures et l'intégralité de cette belle ville ouverte aux piétons et en vélo, et ça n'a pas été le cas.
Ça revient à Lyon un petit peu à dire, oui, tout Lyon sans vélo, et puis à bloquer que la presqu'île, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
D'accord.
Mais bon, ne bounons pas notre plaisir. Donc moi, petit lyonnais, dès que j'ai su la date de la journée, c'était annoncé au mois de juin à peu près, j'ai pris mes billets de TGV pour monter à la capitale. Ça m'a permis de tester ma nouvelle housse de vélo pour pouvoir enfourner ma randonneuse dans le TGV. Donc très pratique, hein, on y colle le vélo, les roues démontées, deux sacoches, et ça tient dans l'espace bagage des TGV duplex, c'est formidable. Aucun problème avec les contrôleurs, hein, c'est juste un gros bagage, donc on ne peut rien dire. Je suis arrivé vers 9h30 à Gare de Lyon, et là, hop, direction Place de la République pour aller faire un tour au village Alternatiba, avec le village Alternatiba, donc les stands, les animations, la musique, les confs, tout ce qu'ils savent faire de bien. La veille, c'est dommage, moi j'ai pas pu y aller, mais il y avait l'arrivée du tour Alternatiba, donc voilà, là, tous les gens qui sont arrivés en vélo, avec des vélos bizarres et dans la bonne ambiance, mais... Je n'ai pas pu y aller. Peu après mon arrivée, j'ai enquillé tout de suite avec la Vélorution, donc une association qui prône le déplacement à vélo. Et du coup, il y avait une balade organisée dans Paris, donc dans les arrondissements fermés, très sage, très familial, avec un petit arrêt sur les Champs-Élysées où on a croisé Anne Hidalgo. Enfin, on l'a entreaperçu derrière la forêt de journalistes, de caméras, de projecteurs. En fait, elle est toute petite, Anne Hidalgo, et voilà, on l'entendait
parler. Elle était à vélo ?
Elle était à pied, non, elle était pas à vélo.
Oh,
alors, par contre, nous, du coup, on a tourné autour en criant les slogans de la Vélorution pendant qu'elle était interviewée. Mais j'ai regardé après sur BFM et sur ITV l'interview, et en fait, on nous entend pas du tout. C'est
ouais, les ingénieurs sont
ouais,
très
voilà, doux. Ils sont très très doux, les ingénieurs sont. C'est pareil, ils cadrent bien serré, et du coup, on nous a quasiment pas vu, quoi. Voilà, donc pendant l'interview, c'était un petit peu navrant. Il y avait plein de taxis et puis des gros bus de touristes qui continuaient à défiler sur les Champs-Élysées. Alors que y avait vraiment des piétons et des vélos partout, c'était un peu dommage, quoi.
Petit retour à République à la fin, petit casse-croûte de retour à Alternativa, et deuxième rando de la journée, beaucoup moins sage cette fois-là, avec le collectif Paris Chill Racer. Alors là, beaucoup
comment
de monde, Paris Chill Racer.
De quoi?
Paris Chill Racer.
Hein?
Un serial killer.
Un serial killer.
Paris Chill Racer,
c'est
d'accord.
Ça. Donc c'est un collectif de cyclistes qui organise des événements sur Paris et sa région. Beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de single feed ou de single fix, de single speed ou de fixie, voilà. Beaucoup de vieux cadres en acier. J'ai vu deux bullets, Grinch. Je pensais à toi.
Steel is real.
J'ai pas eu le temps d'aller les interviewer. Il y en avait un blanc et il y en avait un noir. Et les deux avaient des gamins à l'avant.
Pseudo en blanc.
Le blanc.
S'il a les side panel en tissu, c'est pseudo Mirmex.
Non, il a plus les side panel en tissu, il a une canopie.
Ah, d'accord.
Okay. Alors, les deux étaient décapotés. Il y avait juste.
Mais t'avais des arceaux sur le côté quand même.
Oui, il y avait des arceaux, mais.
Ah, c'était peut-être bien lui.
Bah ouais, ils étaient décapotés, c'est normal, il y avait des gosses. Ok, donc là, il faudra que tu mettes un bruit pour me sanctionner, non? Genre un coup de fouet ou un truc comme ça. Je te mets l'extrait. Aïe! Voilà.
Enfin bref, voilà, beaucoup de monde. Et surtout, chose qui m'a surpris, beaucoup de filles. Plus que chez nous au quotidien, dans
c'est
les villes tafeuses ou dans les randos lyonnaises. Donc voilà, les fenotes là, j'attends que vous releviez le gant et que vous soyez...
On le dira pas assez, le vélo, c'est une activité le vélo urbain, c'est encore une activité qui est malheureusement trop masculine, et on aimerait voir plus de filles ici.
Ouais, voilà. Non, mais là, ce qui faisait plaisir, c'est que les filles venaient pour faire du vélo. Elles venaient pas accompagner leurs copains,
c'est très bien, parce
qu'elles aiment faire du vélo. Et, c'était très bien de voir autant de mixité. Donc, d'après les orgas, ils ont fait un petit comptage rapide, on était à peu près 300 riders au départ. Ce qui est beaucoup. Ça fait une belle colonie. Bon, sachant qu'il y a plein de monde qui sont partis, arrivés. Enfin voilà, ça c'était un peu décousu au niveau du trajet. Les rues étant fermées, il n'y avait pas besoin de coller forcément à l'orga. Rando assez rapide, hein, 23-24 km/h de vitesse. Donc c'était assez peu familial.
Ah oui, c'est pas familial du tout.
C'était contrairement à la Vélorussion du matin qui était cool, c'était pas du tout familial. Et puis surtout, voilà, beaucoup d'incursions dans les arrondissements non fermés à la circulation. Donc, 300 riders qui débarquent et qui croisent les voitures.
Rouler à plus de 20 à l'heure en étant à 300, c'est...
Prendre un peu d'espace entre les vélos.
J'étais souvent à l'avant de la rando et du coup, ça allait vite. Je pense que derrière, ça traîne un peu plus. Et que,
ça s'est allé derrière.
Mais voilà.
Pour ce qui est de la circulation normale, ben, où il y a de trafic, quoi, on est à vélo.
C'est ça, pour moi, c'est le plus bel exemple de masse critique. C'est la première fois que j'ai fait du vélo avec autant de monde, et en effet, les voitures se poussent, quoi. Il y a pas de.
Ah, si, attends.
J'ai fait la convergence lyonnaise, c'est vrai.
La convergence lyonnaise, merde, on était 800, quoi.
On était nombreux, mais c'était pas aussi rapide.
C'est vrai.
Donc voilà, bonne petite rando, fin de la rando, bois de Vincennes, au bord du lac Doménil, avec pique-nique, tout ça. Très très bien, quoi. Donc, très bonne journée pour un cycliste urbain. On a eu un temps magnifique. Et ça, c'est un coup de bol, mais c'est très très agréable. Moi, j'ai noté une excellente ambiance dans les zones fermées à la circulation. Surtout entre piétons et cyclistes qui, particulièrement à Paris, j'ai l'impression, ont l'air de souvent s'opposer sur des conflits d'usage, que ce soit sur les pistes cyclables, les trottoirs, ce genre de choses. Là, il n'y avait pas cette opposition.
Alors, je prends ma casquette de président associatif 3 secondes et je te le dis, l'opposition piéton cycliste, c'est souvent mise en exergue par les édiles, par les associations automobilistes, etc. Mais en l'occurrence, pour peu qu'on discute un peu, généralement, il y a toujours des terrains d'accord qui se trouvent. Et nous, à Lyon, en l'occurrence, avec Droit du Piéton, on travaille toujours en collaboration. Donc effectivement, c'est une opposition qui est apparente, mais dans les faits, elle n'y est pas du tout, quoi. On travaille dessus.
Enfin, du coup, moi, j'ai pas noté de conflit de gens qui râlent, que ce soit côté piéton ou côté cycliste, quoi. Chose qui fait très plaisir, j'ai vu énormément d'enfants dans la rue, que ce soit à pied ou à vélo. Et voilà, les gamins qui peuvent se permettre de jouer. J'ai vu des gamins jouer au foot sur les Champs-Elysées. C'était fantastique, quoi. Un truc qui est arrivé la dernière fois pour la Coupe du Monde de 14-18. Et puis depuis,
Moi, j'étais sur les Champs-Elysées en 98 et il y avait trop de monde pour pouvoir jouer au foot.
Non mais voilà, vraiment vraiment beaucoup de monde et puis l'absence de bruit de circulation qui est en fait très très agréable. C'est pas la chose qu'on remarque tout de suite. En fait, tu le remarques quand tu viens d'une zone fermée à la circulation et que tu arrives de nouveau sur des zones où il y a des voitures. Et là, le bruit devient flagrant quoi.
C'est, je sais pas si tu te souviens, mais ça, tu m'as envoyé un texto pour me le dire. Oui. Tu m'as dit putain. Ah toi aussi tu l'as
oui,
eu.
Oui, je me souviens.
Warthog nous a textoté, il nous a envoyé un SMS, il nous a dit putain les gars c'est incroyable. Je suis sur les champs.
Ouais.
Ah
ouais,
et j'entends rien, il n'y a pas un bruit.
Les Champs-Élysées, on entend les oiseaux qui chantent, les gamins qui se marrent et les moyeux hopes, quoi. C'est le paradis. Une petite section chiffres. Donc, il y a deux associations, Air Parif et Bruit Parif, qui sont deux associations de mesure de la pollution. L'une de la pollution atmosphérique pour Air Parif et l'autre de la pollution sonore pour Bruit Parif, qui ont fait des mesures plus poussées que d'habitude. Ils ont des stations de mesure de bruit et de la pollution. Et là, en plus, Air Parif, ils ont un triporteur en station mobile avec lequel ils font des mesures à des points ciblés de la capitale, en fait, sur certains axes.
Ça, j'en avais déjà entendu parler, oui.
Ouais. Et en fait, eux, ce qu'ils notent, alors ce qu'ils disent dans leur, c'est pareil, on vous mettra le lien vers le dossier de conclusion sur le site, je pense. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le temps sur ce dimanche-là a permis un faible niveau de polluants, comme les autres dimanches de septembre, mais on était encore plus bas. Et surtout, fait important, la pollution locale, donc pas la pollution globale de la capitale, mais la pollution locale au niveau des grands axes notamment, était entre 20 et 40% plus faible que d'habitude pour le dioxyde d'azote. Donc même en fermant seulement 4 arrondissements au cœur de Paris, on note des diminutions énormes, vraiment énormes, pour finalement un faible impact. Pareil pour Bruit Parif, sur la période de fermeture et sur les zones de fermeture, la baisse moyenne est de moins 4,3 dB. Donc une dose de bruit qui équivaut à 63% de moins. Donc c'est absolument gigantesque. Voilà, leur conclusion c'est de dire que la journée sans voiture a été globalement positive en termes d'amélioration d'environnement sonore et de l'air. La mairie de Paris est toute contente, JC2CO a fait une pub aussi parce que c'est un record historique en termes de lock pour leur vélo forcément.
Oui, j'avais vu ça, je sais plus combien.
En fait ils annoncent deux Vélibloué à la seconde.
Ouais.
Vous imaginez le taf que les mecs ont dû avoir après au niveau de la maintenance.
ça doit être assez fantastique.
Ils ont dû prendre des extras à mon avis.
Donc voilà, la conclusion c'est que même si on peut râler sur la faiblesse du périmètre, la plage horaire qui était pas énorme, le fait que personne dans le reste de la capitale n'a respecté les 20 km/h de limite pour les véhicules motorisés. En même temps, la préfecture avait clairement annoncé qu'il y aurait pas de sanctions pour ces dépassements. Voilà, c'est plutôt un très bon message sur l'apaisement urbain. Et puis le fait qu'on peut aussi vivre la ville autrement que tout le temps prendre sa voiture et subir le bruit et la pollution permanente. Donc c'est un début. On espère que l'année prochaine tout Paris sera fermé aux voitures ou que le centre soit fermé un dimanche par mois ou pourquoi pas tous les dimanches de l'été ou ce genre de choses.
Écoute, moi j'aurais tendance à dire une chose, je sais pas si ça sera possible pour Mogor et Grincheux et leur petite tribu, mais si l'année prochaine tu reconduis, je t'accompagne et puis s'il y a des poditeurs qui passent dans le coin, ils nous font signe, on essaiera de se donner rendez-vous et puis pour s'encontrer quoi.
Alors moi j'ai sympathisé avec des gens sur place parce que oui, il y a des Parisiens très sympas, j'en connais. Et non, c'était vraiment cool de pouvoir rouler avec des gens, de pouvoir profiter de Paris qui est une très belle ville et qui est un peu gangrénée par toute cette circulation. Alors petit bémol, moi je suis reparti assez tard le dimanche soir, j'ai pris un TGV à 21h et la journée finissait à 18h. Et en fait, 17h55, tous les flics ont pris place autour des barrières qui fermaient les arrondissements. Il y avait des queues de bagnoles absolument gigantesques et ils ont ouvert les barrières et là ça a été la ruée quoi. Vague des circulations et voilà, on a retrouvé le Paris qu'on aime pas, bruyant, stressé.
Il y a en quelques minutes.
Il y a une caméra. Il y a une caméra time-lapse qui a été faite sur les quais.
Ouais, je l'ai vue celle-là.
C'est Emmanuel M de Vélotaf qui l'a faite, il me semble. Et elle est absolument impressionnante. Il faudra qu'on la retrouve, peut-être qu'on la mette en lien.
Ouais, Je l'ai pas vu, donc ça m'intéresse de la voir, mais
bah, en fait, c'est un timelapse des quais. Donc tu vois toute la journée où les quais sont fermés, t'as des piétons, des vélos, des machins. Et à un moment donné, pouf, les quais sont ouverts. Et là, c'est un flot continu de voitures.
Tu vois deux motards de la police passer qui suivent sur les quais. Et là, derrière, t'as la file de bagnoles. T'as l'impression de voir, tu sais, ce qu'on appelle les flash floods, les crues soudaines dans le désert.
C'est exactement ça.
C'est une flash flood.
J'imagine très bien. Il y a eu un accident sur le périph, juste là où j'étais. Et ils avaient fermé le périph à l'embranchement de la sortie vers l'autoroute A6. Un endroit bien merdique pour fermer le périph.
Qu'est-ce que tu foutais là à vélo ?
Non, j'étais pas là à vélo, j'étais au-dessus sur un pont et mon école était juste à côté. Et au moment où ils ont rouvert le périph, mais c'était départ de Grand Prix.
Ben voilà, bah écoute, je te retrouverai la vidéo, je te la passerai, on la mettra en ligne pour les auditeurs.
Non, donc voilà, bilan très très positif, il en faut plus des journées comme ça, et puis aussi il en faut ailleurs qu'à Paris, quoi, parce que d'autres grandes villes en France qui peuvent se permettre une demi-journée, parce que finalement 11h-18h c'est une demi-journée, d'un dimanche,
la presqu'île sur le
Lac, Lyon, la presqu'île, ça peut se faire. Une demi-journée, on essaye de penser autrement et de se comporter autrement en ville.
C'est un projet qu'on veut peut-être essayer de mener, ouais. C'est clair.
Pour montrer que c'est possible, quoi. Oui. Et surtout, montrer aux gens que c'est très agréable. Pas seulement, ça embête pas seulement les riverains, mais voilà, les touristes, les locaux, tout le monde y trouve son compte.
Ok. Bien. Merci pour ce retour.
Mais de bien belles images, comme on aimerait en voir plus souvent.
C'est ça. À vous, cognac, j'ai. Bicycle. Bon, c'est à toi, Grincheux.
C'est à moi. Je vous ai préparé un petit dossier, ça va être rapide, sur le vélo-taf grande distance. Alors quand j'ai commencé à vélo-taffer, je me disais, enfin pour moi, faire 5-6 km matin et soir, c'était un maximum. Et je voyais les copains qui enquillaient des 15, 17, 20 km, parfois plus, avec une admiration immense. Mais comment font-ils pour rouler autant ? Alors depuis, j'ai parfois eu plus de 10 km matin et soir, j'ai fait des détours, mais je me tenais toujours dans l'admirable de trajet, grosso modo. Et il y a peu, un peu plus d'un mois, on m'a proposé une mission à l'autre bout de Lyon. J'avais besoin de bosser parce que je bossais plus à ce moment. Et j'ai regardé la distance. Alors soit je coupe à travers Lyon, ça me fait 17 km, soit je prends par les berges avec quelques détours et ça me fait 22 km, mais c'est plus roulant. C'est que pour 2 mois, allez, je vais tenter l'expérience. Alors, j'ai commencé par tester les deux trajets. Et ben, question timing, les 5 km d'écart, c'est kiff-kiff au niveau temps, parce que le plus court, mais en ville, avec les feux, la circulation, ou le plus long, avec les 5 km de plus, mais en site propre, sans circulation, sans feu. Et là, je peux avoiner à bon rythme. Et ben, au final, l'un comme l'autre, je mets un peu moins d'une heure pour arriver au boulot. Alors, au final, je fais quasiment toujours le trajet le plus long. Pas tellement pour faire plus de kilomètres, mais parce que c'est quand même vachement plus agréable d'être hors circulation, d'être sur les berges le long du Rhône. Sur mes 22 kilomètres, j'ai moins de 5 kilomètres qui soient pas sur des sites propres avec des pistes cyclables.
Et tu passes toujours par le parc de la Fessine ou...
Je passe toujours par le parc de la Fessine.
Mais tu évites les planches en bois qui glissent ?
Voilà.
Bon, brièvement, en fait, Grincheux a glissé une fois et tu t'es fêlé quelques côtes.
Je me suis fêlé une côte, oui.
Ouais, il a
ça
chuté.
Ça fait mal.
Ouais. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.
C'est ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas enregistré ce podcast à la date prévue, parce que c'était le jour où je me suis cassé la figure et que j'étais pas super en forme pour enregistrer le soir.
Exactement.
Mais voilà, donc au final, j'ai fait toujours le trajet le plus court, parce que le plus long, mais parce que au niveau timing, c'est même parfois quand je me permets de rouler largement plus vite, c'est parfois même plus rapide. Alors, première surprise, déjà, ça se fait super bien, si tant est qu'on a un peu l'habitude de rouler, parce que bon, oui, 20 km matin et soir, faut quand même avoir un petit peu d'habitude de rouler, mais quand on a déjà fait quelques randos, c'est pas ça qui est vraiment le problème. Je redoutais beaucoup la fatigue et ça se passe plutôt bien. Je suis pas pire que d'habitude. Enfin, bon, avec un tout jeune bébé à la maison, je sais pas trop lequel des deux est le facteur le plus fatigant.
C'est le vélo.
C'est le vélo, ouais.
Oui.
L'alimentation, finalement, j'ai pas trop changé. Même si j'ai un peu plus d'appétit, ça me va bien aussi parce que j'ai quand même quelques kilos à perdre encore. Donc voilà.
Tu es beau, mon fils. Tu es beau.
Ouais, si. Enfin, quand même. Et moi, pour moi, le seul problème, bah, c'est les horaires, parce que mine de rien, 22 km, bah, ça fait grosso modo une heure, un peu, même un peu moins d'une heure, mais quand même. Et
avec un bébé à la maison.
Avec un bébé à la maison, deux enfants qui vont à l'école. Et donc, soit je pars très tôt et je suis à peu près à l'heure, soit je dépose les enfants à l'école et j'arrive franchement pas en avance. Et puis, bah, si j'arrive pas en avance, ça veut dire que le soir, je peux pas partir super tôt non plus, quoi. Donc voilà, je serais célibataire, la question serait différente, mais avec des gamins, je ferais pas ça à long terme parce que j'ai trop envie d'être là pour les voir grandir.
Ou alors avec des gamins plus grands, tu pourrais le faire aussi.
Ou avec des enfants qui sont quand ils seront plus grands, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas, de toute façon, je savais que c'était une mission qui était courte, donc c'était une expérience pour quelques semaines. Mais bon, bah, c'est vraiment le seul point bloquant pour moi. C'est les horaires. Les horaires vis-à-vis de la famille. Mais ça se fait super bien. Moi-même, j'en suis surpris.
Je te rejoins. Moi, j'ai eu une expérience un peu similaire l'hiver dernier. J'ai habité temporairement dans de la famille. Et du coup, je faisais Saint-Priest-Vez. Et en gros, mon trajet faisait entre bah, exactement le contraire de ce que tu fais.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Faisais entre 15 et 18, 19 km en fonction de par où je passais. Et je suis passé, donc avant je faisais en gros 7-8 km, j'habitais à Gerlange à la Vez, que j'arrivais à torcher en 20 minutes quoi, et là je suis passé à plus du double pendant en gros 4 mois. Et ma grande crainte au début c'était pareil, c'était d'être physiquement mort, de pas y arriver, et en fait passer la première semaine, ouais quand même, faut avouer ça tire un peu, et puis arriver à optimiser le trajet aussi, parce qu'au début je me suis dit pareil que toi, je vais traverser Lyon, ça va bien aller, et en fait pas du tout, mieux vaut contourner les axes qui sont bloquants avec des feux,
les points noirs,
voilà,
les endroits,
prendre des trajets plus roulants, quitte à rajouter 2, 3, 4, 5 km, c'est pas gênant. Le temps reste globalement le même, et le fait que ce soit roulant est finalement beaucoup moins fatigant.
Et puis voilà, au niveau du stress.
Surtout au niveau du stress, et d'être en dehors de là. Moi, je traversais tout le parc de Paris, ça me faisait 3 km de détour, mais c'était 1000 fois plus agréable que d'arriver à traverser les zones commerciales de Saint-Priest. Gros changement, par contre, je dormais énormément. C'est-à-dire que le premier mois, je faisais 10 heures de sommeil par nuit, quoi. Alors, je sais pas si c'était l'hiver, parce qu'il faisait froid, parce que machin. Mais du coup, au début, j'ai eu beaucoup de mal à, je pensais m'empiffrer, et en fait, pas du tout. Mais par contre, le sommeil,
ça devait être un sommeil hyper réparateur, quoi.
Moi, je me couchais à 9h30, à 9h32, je dormais, et puis, mais pas de problème pour se lever le matin, par contre,
D'accord.
Ouais, moi j'ai un peu de mal à me lever le matin quand même. Hein.
Oui, mais toi tu te lèves pour nourrir un crapaud la nuit, donc c'est compliqué.
Même pas tant que ça. En même temps, Mogor travaille pas pour l'instant. Elle est encore en congé maternité, donc
elle a cette essence de
me laisser tranquille la nuit tant qu'elle ne bosse pas.
C'est admirable parce que c'est vrai qu'elle aussi est connue pour le sommeil lourd et.
Ouais. Cool, ouais. Une autre chose avec. Avec des grands trajets comme ça, ça fait que le soir on rentre tard, et là avec le passage à l'heure d'hiver, et ben en étant hors réglementation, dans des chemins non éclairés,
phare, gilet.
Alors j'ai pas de gilet parce que quand je suis passé chez Decathlon, ils avaient pas de taille XL.
Tu repars pas sans un gilet, j'en ai plein et j'en ai des tailles.
Non, mais j'en ai plein des gilets jaunes de bas côté de route, ça j'en ai plein. Non, je vais me prendre un vrai gilet de vélo.
D'accord, ok.
Mais
l'année dernière, des gilets, j'en avais plein aussi, et du coup, j'en distribuais aux joggers à Paris, parce qu'il y en a plein qui font du jogging la nuit dans le noir.
J'ai
failli en tuer deux, trois, quoi.
Mais moi, ce matin, j'ai failli me prendre un mec qui était un jogger habillé tout en noir et qui marchait à l'ombre des arbres.
Ouais. J'ai eu une vision, j'imagine Warthog qui est en train de rouler, qui roule en boule un gilet qui le jette à la gueule du jogger. Mais un gilet, connard!
C'est une opération qu'on pourrait mener avec la Villa Vélo, ouais, ça m'intéresse. Ouais.
Mais là j'ai sorti le phare de DCA pour les retours. J'ai vu souvent les réactions des joggeurs, soit des cyclistes qui me regardent l'air de dire mais c'est quoi, c'est une mobilette qui arrive là avec un phare comme ça.
Est-ce un scooter? Est-ce une moto? Non, c'est super grincheux.
Mais des trucs marrants, je croise souvent les mêmes personnes, certains avec lesquels je discute, d'autres autres que je retrouve sur les traces Strava et que j'ai identifiées, mais qui n'ont pas l'air d'être d'avoir tellement envie de discuter.
Faut dire que t'es vachement impressionnant à vélo.
Pourquoi? C'est le camion tout noir.
C'est la carrure, tu vois, voilà.
Ouais, celui qui veut pas discuter d'ailleurs, ce matin j'ai essayé de coller le train, mais à plus de 30 à l'heure sur le chemin.
Oh, la vache.
Lui il est en VTT à 30 à l'heure là-dedans.
Je suis en train de me faire stalker par un gros barbu. Putain, accélère.
Et moi j'étais avec le camion là, et 30 à l'heure, et je me suis pris une ornière, deux ornières, j'ai fait ok, j'arrête.
J'avais plein de PR sur la piste cyclable le long du canal de Miribel, là tu m'as tout défoncé. Il va falloir que j'y retourne parce que j'ai l'honneur à relever là.
J'ai fait quelques temps bien placé.
Je me suis fait
une fois un retour en moins de 3 quarts d'heure. Les 22 km en 3 quarts d'heure.
Pas mal.
C'était une moyenne à plus de 30 km de moyenne, dont l'essentiel sur du chemin. Même si c'est du chemin qui est relativement roulant, il y a quelques caillasses qui dépassent par endroits, faut pas se louper quoi.
Blague à part, c'est là qu'on se dit que si on avait une vraie autoroute cyclable qui traverse Lyon, ça veut dire que en 20 minutes on traverse Lyon à vélo sans problème et sans contrainte.
C'est clair.
Le gros problème, c'est que ça existe, mais malheureusement, ce sont les voies qui mettent en bord de tram, et c'est pas suffisant du tout. En plus, qu'il continue à y avoir des feux, etc.
Ouais, non, mais voilà, t'as toujours la contrainte des feux, t'as toujours la. Tu prends la piste cyclable qui longe le T3, là.
Il y a des feux
tout le temps, le revêtement est bousillé, et les arrêts de tram au milieu font que à tous les arrêts tu ralentis pour pas shooter des piétons. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour eux pour se dégager correctement de la piste.
Et t'as des intersections, des passages qui sont totalement aveugles, avec des largeurs qui sont ridicules.
Et des trucs où les vélos sont prioritaires quand tu regardes le marquage au sol et où aucune voiture ne fait attention, et où si tu ralentis pas, tu te fais shooter aussi.
En bref, c'est largement optimisable.
Mais bon, voilà, le vélo taf longue distance. Alors, il y en a qui font plus que ça. Mais généralement, ceux qui font plus que ça, ils sont à la campagne avec des vélos mobiles.
Et ils sont strasbourgeois.
Tu penses à Mike?
Je sais pas, ouais. Un gars dans un gros suppôt blanc, là.
Pizza Powered. Ouais. Voilà, Michael ou d'autres copains qui se font des trajets de plus de 30 km matin et soir, mais bon bah sur des routes qui permettent de faire des grands trajets avec des vélos qui ont un apport aérodynamique qui facilite le trajet.
T'es en train de dire qu'il triche là en fait.
Il est jaloux.
Faudrait que ce soit une compétition pour qu'on puisse dire qu'il y a de la triche.
Ouais. Bon, bah écoutez, un de ces jours, si je peux tester, je testerai. Hein.
Bah, voilà.
Moi, pour l'instant, ça reste depuis des années, c'est 4 km aller, 4 km retour, mais qui sait. Hein.
Donc, voilà pour mon dossier.
Très bien.
Merci.
Merci à toi.
On va passer au coup de cœur.
Au coup de cœur, c'est parti. Donc,
vas-y, Proc.
Bah moi voilà, ça fait quelques temps que j'en ai parlé, j'ai bassiné un peu tout le monde avec ça. Puisqu'on attaque les coups de cœur, ce soir je vais vous parler, alors vous l'aviez compris dans je crois le numéro 4 ou le numéro 5, j'avais fait mon tour de Babel à vélo, où je vous avais parlé des différents termes qui désignent le vélo dans les différentes langues étrangères. Vous aviez compris que je suis un hippophile convaincu. Voilà.
Un hippophile qui aime les chevaux?
Non, un nipponphile, un fan du Japon, des nippons. Et Madame Proc m'a fait découvrir il y a quelques temps un film d'animation qui s'appelle La Traversée du Temps, Toki Okareru Shoujo, en version originale. Et La Traversée du Temps, c'est un... Donc, outre le fait que c'est un film d'animation absolument splendide, très émouvant, très très beau, dans lequel on rentre vraiment, il a un gros rapport avec le vélo, puisqu'il parle de trois amis qui sont au lycée ensemble, et l'essentiel des déplacements est fait à vélo.
Un peu comme dans La Traversée de Paris, finalement.
Il n'y a pas grand-chose à voir, en l'occurrence.
Jamais 3000 francs. Il n'y a pas de cochon.
Pour faire simple, c'est une demoiselle qui se rend compte qu'elle a une capacité assez étrange, qui est celle de pouvoir se déplacer dans le temps, remonter le temps, annuler des événements, et entre autres, bon, c'est pas un gros spoil, le premier événement qu'elle annule, c'est un moment où elle est en pleine descente de vélo, où son frein claque, et en bas de la descente, il y a un passage à niveau qui se ferme et un train qui arrive. Et elle est sur le point de se prendre le train, et là, ça fait blip. Et elle se retrouve le matin, ou je sais plus, enfin bien avant, et elle a évité l'accident de justesse qui allait la transformer en steak haché. Voilà, donc il y a des scènes très... Et entre autres, mon petit coup de cœur dans le coup de cœur, c'est une scène où elle est ramenée sur le porte-bagages par un jeune homme qui en pince pour elle et qui lui fait son...
Son éducation ?
Non, pas son éducation. Oh, dégueulasse, non ! Et qui lui fait son aveu et qui lui dit qu'il est... qu'il est
sa déclaration, alors.
Sa déclaration, merci. Voilà. Qui lui fait sa déclaration alors qu'elle, elle est sur le porte-bagages. Vous le savez, toi, tu m'as même vu le faire. Je transporte Madame Proc sur le porte-bagages.
Je suis témoin. Elle est d'une grâce exquise, d'ailleurs.
Voilà, oui, parce qu'elle est assise en Amazon, tu as remarqué. Je pense que dans la tête de ma chère et tendre, et dans la mienne, c'est vrai que les premières fois où on a fait ça, je pense qu'il y avait un petit peu de la traversée du temps, parce que c'est un animé qui nous a beaucoup émus. Donc, c'est un ordre. Allez le voir, courez. Pour vous deux, je peux lui demander à ce qu'elle vous le prête. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Bref, il faut le voir. C'est très très bon. Vous ne le regretterez pas. Voilà. Et si les auditeurs vous le regardez, n'hésitez pas à me donner vos impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur la messagerie. Voilà.
Très bien. Warthog, tu as un coup de cœur, toi ?
Non, là, j'ai rien foutu, donc j'ai rien préparé. Donc, cette semaine, non, j'aurai rien, désolé.
Bon, et ben, moi, mon coup de cœur, ça va être pour Brompton.
Sans blague.
Voilà. Parce que.
Il y a un duc pour la canaille.
pour une fois que j'ai gagné un truc. En fait, cet été, Brompton, le constructeur de vélos pliants anglais, a fait un petit concours pour. Je sais pas si c'était pour inaugurer leur configurateur de vélo, mais en gros, ils invitaient les internautes à faire des configurations de Brompton et ils allaient en tirer au sort. Je sais pas combien il y en a eu de tirs au sort, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de recevoir un mail auquel je ne m'attendais pas du tout, que j'ai failli mettre à la poubelle.
Faut vous dire qu'on en a bavé pour faire un faux mail qui a eu l'air réaliste. Hein. Avant qu'il y croie, c'était compliqué.
Non, c'était pas un faux mail, j'ai bien...
Ce chameau, il leur a envoyé un mail, il leur a fait « Ouais, je suis podcasteur sur le vélo, je vais vous faire votre pub en France !»
Envoyez-moi du vélo, vous allez voir, c'est trop bien.
Même pas. Et donc, j'ai eu la chance, la surprise d'apprendre que j'avais gagné un Brompton. Et puis, c'est pas vous avez gagné un Brompton, le modèle de base, c'est vous avez gagné la configuration que vous avez faite.
Cette espèce de salopard, il a demandé un moyeu son. J'hallucine.
Je l'ai même pas demandé en titane.
Ah là là.
Ah non, mais oh là, non, mais t'as plus quoi.
T'as demandé tous les jeux de clés au format anglais qui vont avec pour pouvoir le réparer, parce que là, tu vas bousiller tout ce que t'as.
Non, mais j'avais demandé la sacoche hors type de guidon. Donc voilà, d'ici quelques semaines, j'aurai un joli petit vélo.
Bon, j'exige que tu fasses un trajet de test pour aller au boulot sur tes 22 km en Brompton. Hein.
Je sais pas si je serai encore dans ce boulot-là, mais oui, forcément, si j'ai le Brompton pour aller jusque là-bas, je ferai le test. Encore qu'il va être tout seul après, mon petit Brompton.
Oh là là, t'as pas pris l'option auto-nettoyante, c'est décevant.
Non, j'ai pas vu l'option. Donc voilà, c'est un vélo qui me faisait de l'œil et...
Bah je regarde, hein, ça va, c'est bon, il faut que ça soit passé en spam.
En train de checker sa boîte mail pour voir s'il l'a pas
reçu. Non mais c'est super cool, ouais, vraiment, c'est vraiment.
Mais ouais, tu vas être obligé de mettre des photos quand tu l'auras reçu et tout ça.
Ah bah, ah, c'est clair.
Mais le distributeur France m'a demandé que je lui envoie une photo avec la bête et en me précisant par la bête qu'il entendait le vélo et pas notre vélociste.
Non mais attends, tu pourras lui faire plusieurs photos, lui faire une photo aussi dans le bullet, mettre le pliant dans le bullet et puis le déplier, lui faire...
Voilà, on verra, oui. On
pourra faire un gif animé avec le truc qui se déplie.
Oh, quelle bonne idée.
Mais ouais.
Et ça c'est une bonne idée ça, tiens.
Sur internet. Voilà, moi je vous mettrai des photos quand je l'aurai. Et ben je crois que ce podcast touche à sa fin.
C'est ça, tout à fait. Ben c'était bien cool.
La prochaine fois, on devrait avoir un invité. Je vous laisse la surprise, mais si on arrive à s'accorder sur la date, on devrait avoir un invité. Quoi dire d'autre ? Eh ben, où peut-on nous retrouver sur la grande toile d'Internet ? Donc d'abord sur le site cyclocast.fr, sur la page Facebook, facebook.com/cyclocast je crois.
C'est ça.
Sur Twitter, @cyclocast.
Sur Twitter, vous pouvez nous retrouver aussi de manière personnelle.
Donc pour moi, @grincheux.
Pour moi, bah, c'est @prokilus.
Alors moi, j'ai un vieux @crazy_warthog, mais il faut que je regarde l'état du compte par contre.
Et Mogor, @mogor. Vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur sur le site web et nous écrire à cast@cyclocast.fr.
Voilà.
Enfin, de toute façon, vous retrouvez tout dans le billet.
On vous mettra tout.
Envoyez-nous de l'amour.
Ça fait longtemps que j'ai pas été voir sur iTunes s'il y avait des nouvelles notes, des nouveaux commentaires.
Alors sur iTunes, on a dit 5 étoiles uniquement. C'est, voilà, c'est vidu, hein, 5 étoiles.
Vous notez 5 étoiles, un Brompton offert.
Voilà, c'est ça, c'est ouais. Grincheux qui a dit.
C'est Grincheux qui régale.
Ouais, bon.
C'est bon jouet, non, pas touché. Ouais. Bah écoutez, on va peut-être vous laisser pour ce soir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Et puis, à la prochaine fois.
À la prochaine.
À la prochaine.
Salut.
Salut.